Bien-aimés frères et sœurs en la foi, je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus. Nous reviendrons aujourd'hui encore sur le thème biblique de l'adoption, notre adoption en Jésus-Christ, et j'aimerais aujourd'hui vous parler des deux stades de l'adoption. Un stade privé dont nous bénéficions déjà maintenant, et un stade public qui est notre espérance future, et nous allons méditer tout cela avec l'aide de la parole de Dieu aujourd'hui. Je voudrais lire tout d'abord dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, et à partir du verset 12, et nous lirons jusqu'au verset 23. Romains, chapitre 8, verset 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, et la rédemption de notre corps. Vous aurez remarqué dans cette lecture qu'à deux reprises, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, emploie le mot « adoption ». Tout d'abord au verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Et au verset 23, à propos de la création, « Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Il est intéressant de lire cette parole dans l'Épître aux Romains. Pourquoi ? Parce que chez les Romains, un homme pouvait adopter un enfant étranger à la famille. Nous n'avons pas encore parlé de cela jusqu'à maintenant. Mais je le répète, chez les Romains, un homme pouvait adopter un enfant étranger à la famille et garder la chose privée pendant longtemps. Puis il y avait une seconde adoption, en quelque sorte un deuxième stade qui était, lui, public. Et ce stade était public lorsque l'on amenait l'enfant devant les autorités constituées, des fonctionnaires, pour lui ôter ses anciens vêtements, et le père qui l'adoptait maintenant publiquement comme son fils, lui donnait alors un habit qui correspondait à sa nouvelle condition de vie. Et nous allons bien comprendre ainsi les différentes étapes et les richesses de notre adoption en Jésus-Christ. Par la repentance, la conversion à Dieu, nous en avons parlé dans nos méditations précédentes, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est notre nature. Mais en Jésus-Christ, il y a quelque chose de plus glorieux encore. C'est que non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais Dieu fait de nous des fils d'adoption. Et ça, c'est notre position de fils dans notre relation avec le Père. Et nous avons découvert dans nos méditations précédentes toutes les richesses qui en découlent dans notre marche chrétienne présente. Et je reviens sur cette première adoption. Au verset 15, je le relis encore, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le mot grec dont je vous fais grâce et qui est traduit ici par « adoption » signifie « action de poser, action de placer, d'arranger ». Et au sens figuré, il signifie « instituer, établir ». Et quand il s'agit alors de l'adoption d'un enfant, de quelqu'un comme fils, alors cela signifie que la personne est posée, elle est placée en position de fils. Et c'est ce qui s'est produit dans notre vie avec le Seigneur. Dans cette phase-là, nous sommes déjà enfants de Dieu et fils d'adoption. Mais dans cette phase que je vais qualifier de privée, les êtres humains qui nous entourent et qui n'appartiennent pas au Seigneur ne peuvent pas voir cela en nous, si ce n'est par le moyen de certains traits de caractère, par notre façon de vivre, notre façon de parler, par notre style de vie moral, mais les choses se limitent à cela. La pleine adoption dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas encore manifestée. Je le répète, elle est privée. Être fils ou fille d'adoption, c'est pour l'instant une affaire entre le Père céleste et nous par Jésus-Christ. Et je vais vous prendre une image, celle d'un sculpteur. Il arrive souvent qu'un sculpteur travaille pendant des années développant dans la pierre quelques formes de beauté et le perfectionnement dans tous les détails du sujet qu'il est en train de sculpter. Mais ceux qui sont informés du fait ou qui sont capables d'apprécier l'excellence de ce travail sont comparativement peu nombreux. Ce seront les proches du sculpteur dans son atelier, les choses se limiteront à cela. Mais le jour vient où ce travail-là va être dévoilé publiquement. Et à ce moment-là, tous pourront voir le chef-d'œuvre du sculpteur. Ils pourront le féliciter pour son habileté sage, patiente, qui aura produit un tel résultat. Eh bien, il en sera de même en ce qui concerne les voies de Dieu. Il y aura un jour où sera publiquement dévoilé tout ce que le Seigneur aura effectué pendant des milliers d'années dans les âmes des hommes. Ses fils vont être révélés. Et c'est pourquoi il est dit dans l'Épître aux Romains que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ces fils de Dieu que nous sommes paraîtront en gloire au retour du Seigneur. Et quand ils seront révélés, l'héritage sera débarrassé de toute entrave, délivré de toute la servitude dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et c'est pourquoi encore une fois l'apôtre nous dit que la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. C'est ainsi que nous pourrions le traduire littéralement. Nous ne sommes donc pas encore déclarés ouvertement ou publiquement comme des fils de Dieu, comme des fils d'adoption. Et avec cela s'accorde ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 3, les versets 1 et 2, vous connaissez bien ce texte. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et vous remarquez bien ici que l'apôtre Jean fait en quelque sorte allusion aux deux adoptions. La première adoption, c'est lorsqu'il dit « nous sommes maintenant enfants de Dieu ». Et la seconde, c'est lorsqu'il déclare « ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsqu'il paraîtra, nous serons, c'est donc un devenir, c'est un futur, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous ne sommes pas encore revêtus de ce qui convient à la famille royale à laquelle nous appartenons déjà. Nous sommes faits de chair et de sang, j'entends par là notre constitution physique, et à ce niveau-là, nous portons exactement la même chose que ce que nous étions ou ce que nous avions en tant que fils d'Adam. Mais, encore une fois, l'apôtre Jean déclare « ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, semblables à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Dans son épître aux Romains au chapitre 8, verset 19, je vous ai lu ce texte et je le répète encore maintenant, « la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ce qui signifie que quelque chose de glorieux pour nous est à venir. Pour la création, déjà, qui est en mauvais état, qui souffre des conséquences du péché, on le voit bien avec tout le désordre écologique aujourd'hui, et les choses ne font que s'accélérer et s'accentuer. Donc la création attend quelque chose de glorieux pour elle-même, mais nous aussi, pour ce qui nous concerne en tant que fils de Dieu, nous attendons quelque chose de glorieux. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 49. L'apôtre Paul fait allusion ici à l'espérance des chrétiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49. Il dit « De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Mais c'est un futur, nous porterons, c'est un avenir. Les choses sont en attente, nous les espérons, nous les attendons. Et l'apôtre Paul ajoute, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Et puis, dans l'épître aux Philippiens, alors que l'apôtre Paul parle du retour en gloire de Jésus, il dit ceci au chapitre 3, verset 20, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » En ce qui concerne notre lecture initiale aujourd'hui, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parlait des prémices de l'Esprit. Il dit « nous qui avons les prémices de l'Esprit ». Et j'aimerais maintenant m'entretenir avec vous de cela quelques instants. Les prémices de l'Esprit, c'est tout simplement ce que l'Esprit d'adoption, le Saint-Esprit, apporte à notre vie. Le Saint-Esprit nous donne donc une part de l'adoption. En attendant la jouissance totale et définitive de cette position. Il s'agit d'une possession actuelle. Nous nous sommes repentis de nos péchés sous l'action du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau sous l'action du Saint-Esprit. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ sous l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a véhiculé jusqu'à notre cœur toutes sortes de richesses spirituelles, la foi, l'espérance, l'amour, pour ne parler que de celles-là. Pourquoi est-il parlé des prémices de l'Esprit ? Parce que ces grâces et ces richesses sont les premières opérations de l'Esprit en vous et en moi, et elles viennent en premier. J'aimerais faire allusion à une ordonnance du Seigneur en ce qui concerne le peuple d'Israël, et nous la trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, les versets 10 et 11. Dieu disait « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. La gerbe agitée devant l'autel était donc la première de la récolte. Les prémices, telles que la parole de Dieu les appelle, étaient donc un gage de la récolte à venir. Dès que l'Israélite avait recueilli la première poignée d'épis mûrs, il attendait alors joyeusement le moment de la récolte et de la récolte abondante. Eh bien, il en est ainsi des œuvres actuelles du Saint-Esprit dans notre âme. Elles annoncent la gloire à venir. Il y a une récolte abondante. Pour l'instant, nous jouissons des prémices de l'Esprit, ce qui est déjà beaucoup, mais qui n'est rien en comparaison de toute la gloire qui nous attend. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 13, l'apôtre Paul a écrit ceci: « En lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, écoutez bien, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Un gage n'est pas la totalité. C'est quelque chose qui est versé en attendant la totalité du don. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage de notre héritage à venir. L'apôtre Paul emploie une autre image dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 22. Seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 22, et je vais vous lire maintenant ce texte. Je peux même vous le lire à partir du verset 21. « Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Et écoutez bien la suite. « Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Eh bien, quand nous versons des arts, nous versons en quelque sorte un acompte, mais la totalité n'est pas versée. Eh bien, en ce qui concerne les arts de l'Esprit dans nos vies, nous avons reçu en quelque sorte un acompte sur notre héritage à venir. Et nous devons être évidemment impatients de recevoir le reste de la fortune de Dieu pour notre vie. Je vous ai parlé la fois dernière de la parabole du fils prodigue. Quand le fils prodigue revient repentant, qu'il tombe dans les bras du Père, qu'il reçoit l'assurance du pardon, qu'il est revêtu de la plus belle robe, qu'on lui met un anneau au doigt, des souliers aux pieds, la parole de Dieu nous dit alors que le Père, les serviteurs, la maison tout entière du Père, ils commencèrent, dit le Seigneur Jésus, ils commencèrent à se réjouir. Mais la joie n'est pas terminée, ils commencèrent à se réjouir. Et en ce qui concerne notre vie chrétienne, il en est ainsi. Quand nous nous sommes repentis, convertis à Dieu, que nous avons commencé à recevoir les richesses de la grâce, nous avons commencé à nous réjouir. Mais ce ne sont là que les prémices de quelque chose de glorieux qui est à venir. Et vous avez remarqué dans le texte du Lévitique que je vous ai lu tout à l'heure que les prémices étaient toujours sanctifiées pour le Seigneur. On apportait la première gerbe au Seigneur. Eh bien, en ce qui nous concerne, il ne faut jamais oublier ceci, c'est que notre nouvelle nature, les dons que le Seigneur a pu nous transmettre, les capacités reçues de sa part, doivent être des choses consacrées à Dieu. Mes frères, mes sœurs qui m'écoutez, la nouvelle vie que nous avons reçue du Seigneur ne nous appartient pas. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans son épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 7, l'apôtre Paul écrit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Les prémices n'étaient pas la récolte, et nous le comprenons fort bien. De la même manière que les œuvres actuelles du Saint-Esprit en nous ne sont pas la consommation finale et la perfection vers laquelle nous sommes en train d'avancer, vous et moi. Ne nous vantons donc pas d'être arrivés au but, nous en sommes loin, et ne confondons pas en quelque sorte la gerbe agitée devant l'autel avec la récolte tout entière de l'année. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir faim et soif des choses de Dieu dans une attente impatiente de la pleine adoption qui nous sera communiquée au retour du Seigneur Jésus. Ouvrons notre bouche et Dieu va la remplir pour nous nourrir, pour nous faire progresser, pour nous amener notre développement spirituel en Christ. Que nos possessions actuelles, nos possessions spirituelles, attisent en nous le feu d'une sainte convoitise pour posséder plus de grâce encore de la part du Seigneur. Désirons parvenir à des degrés plus élevés de consécration et de sainteté. Je voudrais conclure en vous lisant ce verset de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3 et au verset 20. Éphésiens 3, 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. »